Christophe André, qui va aborder la question des personnalités normales et pathologiques. Je ne présente pas Christophe André, psychiatre, écrivain, parisien, d'origine toulousaine.
D'origine montpelliéraine et fortement adaptée à Toulouse, et puis maintenant émigrée vers Paris. Je vais faire bref, j'ai bien écouté François Julien. Bonjour, merci. Et voici notre sujet, donc là, une petite réflexion en commun sur la notion de seuil en matière de normalité et de pathologie dans ce domaine des troubles de la personnalité, pour parler de manière plus concrète les différences entre les petits pénibles et les gros casse-pieds. Puisque cette question des troubles de personnalité, c'est quelque chose évidemment qui déborde largement le domaine des cabinets de psychiatrie, de psychanalyse, de psychothérapie. Évidemment, on est confronté quotidiennement à des comportements, des attitudes un peu surprenantes, un peu agressives ou offensantes parfois, qui font qu'au fond, tout le monde a un avis tout de même sur ce qu'est un casse-pied, à partir de quel moment on peut se trouver qualifié de la sorte. Voici le plan que nous allons suivre. Je ferai quelques petits bémols avec cette notion de personnalité, mais je vous rappellerai quand même que ça compte, que c'est utile, c'est un concept très opérationnel pour des cliniciens comme nous sommes tous ici. Et puis j'aborderai évidemment cette question qu'on m'a demandé de traiter, qui est la question du seuil. Donc concernant la notion de bémol avec des troubles de personnalité, un premier bémol, c'est que nous sommes d'assez mauvais observateurs de nos propres traits de personnalité, nous sommes d'assez mauvais connaisseurs de nos propres traits de personnalité. On a comme ça un très grand nombre d'études en psychologie sociale montrant que nous sommes prêts à gober à peu près n'importe quoi en matière de profil de personnalité nous concernant. Beaucoup de ces études ont été proposées, par exemple, dans le cadre de tentatives d'évaluation ou de compréhension du succès de l'astrologie auprès du grand public. Donc, si vous écrivez pour avoir des tests d'astrologie ou même de graphologie, c'est cruel pour les graphologues, mais ça marche un petit peu de la même façon, vous allez souvent obtenir des portraits psychologiques qui vous satisferont pleinement. Moi, j'ai fait ça parce qu'il faut le faire, évidemment, il ne suffit pas de dire, il faut faire. Et voici le portrait qu'on m'a renvoyé, dont je pense qu'il devrait concerner à peu près la plupart d'entre vous. Donc, il y a tout le blabla. Mon attention s'est trouvée immédiatement attirée par l'ensemble, et patati et patata. Vous craignez souvent de vous livrer, de montrer qui vous êtes. Vous appréhendez souvent le regard des autres. Je me demande chez quel être humain cette affirmation peut être fausse. Vous pouvez avoir souvent la crainte de ne pas réussir, là aussi. Dans votre personnalité, diverses dualités provoquent des désaccords intérieurs. Bon, levez le doigt à ceux qui n'ont pas eu des désaccords intérieurs avec eux-mêmes. En avançant dans mon étude, je découvre certaines difficultés. Tout d'abord, sur le plan psychologique, je relève l'existence de phénomènes contradictoires. Ben oui. qui peuvent révéler un conflit ancien. Ben oui aussi. En conséquence, un manque de confiance en vous qui interdit peut-être à vos potentialités de s'exprimer pleinement. Ça peut générer une certaine maladresse ou une mauvaise aptitude à faire les meilleurs choix. C'est vrai, dans ma vie, je me demande toujours aujourd'hui si j'ai fait toujours les meilleurs choix. Ça continue comme ça, il y en a trois pages. Devant ce type d'écriture, c'était de la grapho, j'ai souvent quelques instants de réflexion car il y a tant de choses à dire. Votre personnalité est très intéressante. Votre comportement, voilà. Peut-être derrière tout ça, il y a un sentiment caché que vous avez du mal à analyser. Bref. Alors, je ne veux pas me dévoiler davantage. Ce qui est passionnant, c'est que lorsqu'on renvoie ce type de portrait à 100, 1000, 10 000 personnes qui ont sollicité un portrait astral gratuit et que vous leur dites « Est-ce que c'est vous ?» Est-ce que votre conjoint ou vous-même vous reconnaissez? Si oui, répondez-nous et envoyez-nous un chèque, vous aurez la suite. Vous avez des taux de satisfaction de 90%. C'est ça qu'on appelle l'effet Barnum. Donc, déjà, l'autoconnaissance en matière de personnalité pose beaucoup, beaucoup de problèmes. On a d'autres petits domaines où c'est assez passionnant de se pencher, ce qu'on appelle l'effet de halo. Par exemple, on sait que nos jugements, notre regard sur une personnalité donnée va être très fortement coloré par l'affectivité globale que l'on éprouve vis-à-vis de cette personne. On sait par exemple que quand on décrit les défauts de quelqu'un, si on aime cette personne, on va plutôt limiter ses défauts en disant « bon, c'est quelqu'un qui parfois fait des blagues un peu de potache ». Et si on n'aime pas la personne, on va dire « c'est un gros lourdingue ». C'est-à-dire on généralise les défauts. Inversement, pour les traits positifs, si on n'aime pas la personne, on dit « bon, oui, des fois, elle est aimable, mais c'est un peu quand elle veut obtenir quelque chose », alors que quand on aime, c'est quelqu'un de profondément gentil. Donc, tous ces phénomènes concernent évidemment pas nous, pas les médecins, pas les psychiatres, ni les psychologues, mais le grand public. Le problème, c'est qu'on fonctionne aussi un petit peu comme ça avec nos patients, finalement. À partir de quand va-t-on dire de quelqu'un qu'il est précis et ponctuel ou le considérer comme plutôt de registre obsessionnel, démonstratif ou histrionique, sûr de lui ou narcissique. Un autre sujet de réflexion important par rapport à la pertinence de ce concept de personnalité, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas que la personnalité pour expliquer nos comportements. Il y a aussi quand même deux autres grands facteurs, des facteurs d'environnement et même des facteurs de circonstances. Dans les facteurs d'environnement, je ne me souviens plus si j'ai fait une diapo sur ça, voilà. Dans les facteurs d'environnement, il y a bien sûr des facteurs culturels. On sait que selon la culture dans laquelle vous évoluez, vos traits de personnalité histrionique vont être plus ou moins bien acceptés. Si vous évoluez dans une culture latine, méditerranéenne, vous serez moins rapidement qualifié d'histrionique par votre besoin d'attirer l'attention, de parler fort, d'être reconnu et approuvé par les autres, et beaucoup plus tôt si vous évoluez dans une culture nordique. Il y a aussi des environnements plus moins culturel et plus lié aux événements de vie, comme ce qui peut se passer au niveau des activations émotionnelles. On sait qu'il y a des traits de personnalité qui vont être activés, qui vont se révéler parce qu'il y aura eu au préalable une activation émotionnelle, comme chez certains patients à vulnérabilité dépressive, certains environnements qui vont pouvoir déclencher la réactivation de leur schéma cognitif dont Bernard Pascal vous parlera cet après-midi. Pareil pour des patients anxieux ou obsessionnels, mais c'est la même chose pour tous les traits de personnalité. Les personnalités narcissiques vont être agacées par le fait que d'autres qu'elles sont en train de recevoir des compliments à leur côté, donc vont commencer à se montrer plus narcissiques qu'elles n'auraient été si on leur avait fichu la paix. Et puis, il y a parfois des tout petits détails qui vont tout faire basculer. Ça, c'est une étude très classique, assez ancienne de psychologie sociale, qui était assez cruelle. On prenait des étudiants en théologie et on les faisait participer à une petite expérience où on leur disait, voilà, vous allez travailler sur le texte du bon samaritain. Donc, vous connaissez la parabole du bon samaritain. C'est un homme qui a été attaqué par des brigands, qui gît sur le bas-côté de la route et qui gémit, qui a besoin d'aide. Et deux hommes passent, donc un homme chargé de fonctions religieuses qui passe et qui ne s'arrête pas pour le secourir, et un autre, un brave bonhomme qui s'arrête, qui prend soin de lui, je crois qu'il l'amène dans une auberge, il lui paie un repas, enfin bref, le bon samaritain. Donc, les étudiants potasse travaillent leur texte dans le but de faire une homélie ensuite, qu'on va enregistrer. On dit, voilà, vous travaillez bien ce texte du bon samaritain, puis vous allez aller dans un petit studio qu'on a quelques rues plus loin, et on va vous enregistrer. C'est bon. Tout le monde, les étudiants sont très contents, ça leur permet d'évaluer un peu leurs compétences. Mais sans leur dire, on sépare ces étudiants en deux groupes. À un groupe, on fiche la paix, on leur dit, ben voilà, le studio est à trois rues, vous avez une demi-heure, allez-y tranquillement. Et à l'autre groupe, on met la pression du temps. On leur dit, attention, on a pris un peu de retard, là, il n'y a plus que 5 minutes, dépêchez-vous, foncez. En chemin, ils sont obligés de passer près d'une porte cochère où un comparse des expérimentateurs s'est couché, est en train de gémir. Comme dans la parabole, quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ce dont on s'aperçoit avec horreur, c'est que ces braves séminaristes, qui n'ont pas a priori, ça n'a pas été étudié dans l'étude, mais on peut supposer que, en tout cas, leur taux de trouble de personnalité était à peu près équivalent à celui de la population générale, ces braves séminaristes, déjà, ne s'arrêtent pas beaucoup quand même. Il n'y en a que 40% qui s'arrêtent pour secourir le bonhomme, qu'ils sont obligés d'entendre. On voit bien qu'ils l'entendent, ça a été vérifié, ça, parce qu'ils ont un autre but en tête. Et l'horreur, c'est que ceux à qui on a dit vite, vite, sont seulement 10% à s'arrêter. Donc, méfions-nous de nous-mêmes, méfions-nous de nos certitudes, méfions-nous des valeurs auxquelles nous prétendons adhérer, parce que tout ça peut être facilement bousculé par des petits détails absurdes et qui n'ont pas le poids, enfin qui ont un poids énorme par rapport à ce qu'ils devraient avoir et qui peuvent prendre un poids donc plus important que certains facteurs de notre personnalité. Bon, tous ces bémols posés, la personnalité c'est quand même quelque chose qui compte, d'abord parce que c'est quand même fréquent, ce sont des profils d'humains qu'on rencontre fréquemment dans notre métier de soignant. C'est assez compliqué, les études sur les troubles de personnalité, Julien Guelfi vous rappelait tout à l'heure pourquoi, mais quand même, on sait que dans les demandeurs de soins, il y a un taux assez important, et ils sont surreprésentés dans ces cohortes de demandeurs de soins. C'est important aussi parce que les évolutions sociales, en tout cas dans les sociétés occidentales, font qu'ils sont y avoir une sorte de dérégulation de certains freins éducatifs, sociaux et comportementaux qui font que ces troubles de personnalité, avec l'accent accordé aux droits de l'individu par rapport aux droits du groupe auquel il appartient, ces troubles de personnalité s'expriment peut-être de façon plus spectaculaire et plus violente et moins culpabilisée qu'ils ne le faisaient autrefois, ce qui entraîne assez souvent un nombre important de gènes sociaux et de difficultés pour cohabiter finalement. On vit dans une société où, à partir du moment où il y a cette dérégulation sur le droit, l'expression des traits de personnalité de chacun, évidemment, ça nécessite qu'on fasse certains efforts de cohabitation. Si on ne réfléchit pas sur les troubles de personnalité, sur la manière dont on peut les penser et agir avec eux, on se trouve de fait ramené à l'usage de classifications implicites. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de classification, on peut gueuler, on peut râler contre les classifications psychiatriques, psychologiques, etc. Le fait est que si ces classifications n'existent pas, on retombe à des classifications primitives, les sympas, les pas sympas, les pénibles, les pas pénibles, et hop, on essaie de mettre tous les pénibles dans le même coin de table pour rester entre pas pénibles. Donc, ce n'est pas forcément mieux. Alors, j'en arrive à ce sujet du seuil normal pathologique. Julien Guelfi vous a parlé tout à l'heure des deux grandes catégories de classification de la personnalité. L'approche catégorielle, donc avec les paranoïaques, les histrioniques, les anxieux, les obsessionnels, on est ou on n'est pas paranoïaque, anxieux, obsessionnel. Et puis une autre approche, l'approche dimensionnelle dont je vais reparler. Alors, je vois à vos têtes que vous êtes en train de vous demander pourquoi j'ai choisi d'illustrer avec l'image de gauche cette approche catégorielle. C'est pour une raison simple. Cette approche catégorielle pose un problème, évidemment, de polarisation. Une fois qu'on a mis quelqu'un d'étiquetage, une fois qu'on a mis quelqu'un dans une catégorie, obsessionnel, anxieux, dépressif, tout ce que vous voudrez, on a tendance, lorsqu'on observe le comportement, la personnalité de ce quelqu'un, à toujours aller vers ce qui nous semble le plus intéressant. Et si vous vous souvenez bien, cette publicité, il y a quelques années, le mannequin, c'est de publicité, c'était dans les abribus, à l'arrière des autobus, enfin, c'était fascinant pour tous les mâles qui passaient dans la rue, parce que cette jeune fille disait « Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit dans les yeux. » Et évidemment, pour la population mâle, en tout cas, c'était difficile de la regarder dans les yeux. Et c'est un peu pareil, regardez autre chose, que lorsqu'on a des convictions sur quelqu'un, la difficulté de s'extraire de ces convictions pour voir que parfois, la personne ne fonctionne pas systématiquement sur le registre pathologique et catégoriel dans lequel on a voulu la cantonner. L'approche dimensionnelle, donc, qui dit qu'au fond, il y a un continuum entre normal et pathologique et qu'en nous peuvent coexister tout un tas de traits à des degrés divers selon les moments, évidemment plus fines et plus intéressantes, plus compliquées à manier aussi en clinique, mais c'est en tout cas celle-ci que j'utiliserai pour ma petite démonstration qui va suivre, en faisant un mix d'ailleurs, ce que tu disais Julien tout à l'heure, hein, on peut prendre l'approche catégorielle avec laquelle nous sommes familiarisés en psychiatrie et la décliner de manière dimensionnelle, dire chacun de nous un gradient potentiel de paranoïa, d'obsessionnalité, d'histrionisme, de narcissisme. Les critères concernant le seuil entre personnalité normale et personnalité pathologique, il y a des critères descriptifs que vous avez sur le haut de la diapositive. Donc, c'est l'intensité de la détresse émotionnelle dans les situations starter. On parlait de la souffrance du narcissique lorsque d'autres que lui sont félicités. Celle de l'obsessionnel, je parlais tout à l'heure, avec toi, avec Fabrice Cholan, sur le... Vous voyez les trois panneaux là sur l'estrade, le quorum. Il y a trois panneaux, le quorum. Celui du milieu est légèrement décalé vers la droite. Et tout à l'heure, il y avait aussi celui de gauche qui était décalé. Et je le disais à Fabrice, ce truc me dérange, ça active mon logiciel obsessionnel. Et très gentiment, voilà, il a remis... Et je me suis senti un petit peu mieux. Voilà, problème d'activation émotionnelle. Ma détresse n'était pas si grande que je n'ai pas pu écouter les deux orateurs précédents, mais quand même, elle était là, elle était allumée. Perturbation des liens interpersonnels, handicap social à cause de tout ça, vous connaissez ça en tant que clinicien. Dans des critères un peu plus dynamiques, il y en a plusieurs. Sans doute que le plus important, c'est celui de la flexibilité, déclencher ou non notre logiciel histrionique, paranoïaque, obsessionnel, narcissique, selon les situations, et le faire avec pertinence est sans doute un des marqueurs de normalité le plus intéressant. Donc on va envisager ensemble rapidement un petit survol au travers de quelques cas cliniques de différents critères nous permettant de réfléchir à cette notion de normal et pathologique, en commençant par les critères de flexibilité et de contextualisation ou décontextualisation par rapport, par exemple, à la personnalité paranoïaque et aux traits de méfiance qui est un des traits, il y en a d'autres, la psychorigidité et d'autres encore, le trait de méfiance qui caractérise la personnalité paranoïaque. Chacun de nous a ou devrait avoir la capacité de voir ce trait méfiance s'exprimer. Simplement, on sait qu'il y a des contextes plus ou moins légitimes. Un contexte où je suis face à des inconnus dans une situation à fort enjeu, dans ce type de contexte, le fait que je commence à me sentir méfiant, que je ne sois pas particulièrement chaleureux, ou en tout cas qu'intérieurement je sois sur mes gardes et je cherche à décrypter des signes de dangerosité, on considère que c'est un contexte normal. Si vous achetez une voiture d'occasion à une bande de type que vous ne connaissez pas, un dimanche matin dans une banlieue un peu glauque, sur un parking de supermarché où il n'y a personne autour, vous allez avoir une petite activation de votre logiciel personnel de paranoïa et personne ne pourra vous dire que c'est un trouble de personnalité, on vous dira « ça vaut mieux, ça vaut mieux ». Donc là, on est dans une adaptation au contexte. Un cran au-dessus, vous pouvez toujours face à des inconnus, mais dans un contexte sécurisant, par exemple une soirée chez des amis, faire preuve de méfiance, c'est-à-dire on vous présente des gens que vous ne connaissez pas, vous serrez la main d'un peu loin, vous ne parlez pas trop de vous, tant que vous n'avez pas sondé leurs âmes, leurs reins, leur cœur, sans que vous n'ayez pas d'autres informations pouvant vous rassurer. Là, vous n'êtes pas forcément dans la pathologie paranoïaque, mais vous commencez à avoir des traits de personnalité paranoïaque qui s'autonomisent par rapport au contexte ou à ce qui serait légitime dans un contexte donné. On retrouve ça souvent en psychiatrie, le problème de décontextualisation. On a ça chez les phobiques. Les personnes qui sont phobiques d'un chien vont avoir peur souvent de la plupart des chiens. Ils extraient le stimulus chien du contexte global et ils ne voient plus ce qu'il y a dans le contexte, le fait qu'il y a un maître au bout de la laisse, que le chien est plutôt petit, qu'il a un comportement rassurant. Il suffit qu'il y ait ce stimulus et il y a une activation des zones cérébrales de peur. Et c'est sans doute la même chose, il y a de manière évidente, hein, je pense que tu nous évoqueras ça, des troubles émotionnels, des troubles de la réactivité émotionnelle chez la plupart des troubles de personnalité. On connaît ça très bien chez les borderline, mais ça me paraît extrêmement clair cliniquement que c'est le cas chez toutes les personnalités pathologiques. Donc problème de décontextualisation et puis... Quand la décontextualisation est totale, quand c'est méfiance avec tout le monde, même avec les personnes connues, là, on rentre dans les pathologies psychiatriques lourdes, avec toutes les conséquences dommageables que ça peut avoir. Ça, c'est le problème des liens que les proches peuvent avoir avec des patients paranoïaques, c'est celui des incessantes blessures que leur infligent ces patients, sans vouloir le mal de leurs proches, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être paranoïaques. Deuxième petite réflexion que je voulais vous soumettre, la notion de conscience du trouble qu'on peut avoir en matière de problèmes de personnalité et d'efforts qu'on peut être amené à faire pour se contenir ou non dans certains contextes. Alors on va choisir pour parler de ça les personnalités narcissiques, qui sont des personnalités assez passionnantes, qui, moi, sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi et travaillé à partir de toute ma réflexion sur l'estime de soi. Voilà, donc la personnalité narcissique, je vous rappelle les critères, sentiment d'une dilatation de l'ego, une petite tendance à mépriser les autres, rapidité du mépris vis-à-vis des opinions ou des attitudes qu'on ne comprend pas ou qui nous paraissent de moins bonne qualité. Il y a une infiltration du jugement. Il n'y a pas de regard neutre ou bienveillant. On est en train sans arrêt, lorsqu'on est narcissique, de juger l'environnement selon des critères de supériorité-infériorité. La grille de lecture, c'est supérieur-inférieur. Le narcissique reconnaît qu'il y a des personnes supérieures à lui, même si ça ne lui fait pas plaisir, mais là, il est prêt à les admirer. Mais la plupart du temps, il cherche à voir en quoi il est supérieur aux autres. Et un autre trait des personnalités narcissiques, c'est qu'on estime avoir droit à des avantages que les autres n'ont pas. Ça peut aller parfois jusqu'à l'absurde, mais bon, c'est comme ça. Un des problèmes assez émouvants chez les sujets, narcissiques, c'est quand ils ont compris qu'ils étaient narcissiques, ou leur conjoint leur a remonté les bretelles, ou leur thérapeute les a un peu secoués, et bon, ils essaient de faire des efforts pour aller au-delà de ça, aller au-delà de ce déficit d'empathie qui les caractérise également, ce déficit de compréhension des besoins de l'autre. Alors, petite parenthèse, on parlait hier soir avec Brigitte Rimlinger de traits de narcissisme, d'estime de soi chez les enfants. Donc, lors du débat, il faudra lui demander de raconter une anecdote que moi, j'ai trouvée totalement géniale. Je la raconterai pour toi, ça t'embête, si tu me le permets. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les traits de narcissisme sont nécessaires au bon développement de l'enfant. Tout ça, on est bien d'accord. Mais revenons aux adultes. Et justement, à ces difficultés que peuvent avoir ces patients, très sincèrement, à s'intéresser aux autres, alors qu'au fond d'eux, ils pensent vraiment qu'ils continuent d'être supérieurs à eux. Et ça montre d'ailleurs l'ampleur des chantiers psychologiques qui ne peuvent pas se limiter simplement au changement de comportement, même si c'est quand même le démarrage, hein, ou le lancement des efforts, mais aussi évidemment au changement des schémas cognitifs, pour parler selon notre école, mais les analystes ont d'autres appellations, ils travaillent d'une autre manière, qui sont évidemment indispensables. Donc un autre exemple, les sujets narcissiques, c'est une source inépuisable pour les cartoonistes et les humoristes, à leur corps défendant, là encore, même dans les relations intimes, on peut avoir ce type de problème, déclaration d'amour d'un sujet narcissique. C'est ça le problème des troubles de personnalité, en fait, c'est le pourrissement de leurs relations, même proches, quoi, même ces bases de sécurité, ces havres de paix que devraient être nos relations intimes, vont être envahies par nos traits de personnalité pathologiques. Et évidemment, c'est une source de grande souffrance. On doit toujours réfléchir aussi, lorsqu'on se penche sur ces questions de personnalité, aux interactions avec l'environnement. Il y a quand même des critères culturels très importants, je vous le disais tout à l'heure. Il y a des cultures présentant une plus grande tolérance à certains traits de personnalité, voire à certaines personnalités pathologiques. Il y a des époques, très clairement, où les sujets psychopathiques, non intimidables, impulsifs, bagarreurs, sans aucune empathie, avaient une place royale. Toutes les époques instables, les époques de guerre, les époques de grandes découvertes. Si on avait fait passer les tests dont parlait Julien Gelfi, là, le néo-PIR, etc., au bonhomme qui partait sur les caravelles de Christophe Colomb ou sur les drakkars des Vikings, je pense qu'on aurait eu quand même des profils de personnalité pas tout à fait normaux, et c'était très utile à ce moment-là à la société, on y reviendra. Il y a d'autres environnements plus subtils qui peuvent jouer un rôle. Par exemple, si on se penche sur les traits passifs-agressifs. La personnalité passive-agressive n'est pas reconnue comme telle, justement parce que ce n'est pas assez solide, pas assez homogène. Mais en tout cas, on sait bien, quelqu'un qui en parle beaucoup, par exemple, dans ses interviews, il a affaire beaucoup avec ça, c'est Woody Allen, hein, qui qualifie un certain nombre de ses anciennes compagnes comme étant des passives agressives, c'est-à-dire des personnes qui sont allergiques à toute forme de coercition, de règles imposées, mais qui n'y réagissent pas de manière explosive ou directe, mais de manière détournée, en boudant, en sabotant, hein, puisque c'est comme ça, on va faire comme tu as dit, et poum, on rentre dans l'arbre. On sait que ces personnalités passives agressives présentent une susceptibilité totale à tout ce qui leur paraît être un manque de respect, un manque de reconnaissance. C'est un peu ce qu'on a aussi dans les problèmes de narcissisme, et notamment tout ce qui est autorité qui leur paraît abusive. Mais on sait réellement qu'il y a des environnements qui induisent des comportements passifs-agressifs. On sait par exemple que des sujets qui sont immergés dans des environnements hiérarchiques, par exemple des styles de management où on met une grosse pression sans donner de droit aux salariés à s'exprimer, eh bien, on facilite le développement dans de tels milieux de comportements passifs-agressifs, alors qui vont plutôt arriver chez les gens qui avaient sans doute, évidemment, des petites prédispositions, mais qu'on va multiplier par ce type de style de management. Et enfin, je voudrais conclure ce petit tour d'horizon avec quelques réflexions sur la notion de bénéfices et d'inconvénients, et ça amorcera notre conclusion, qui peuvent exister dans la plupart, à propos de la plupart des traits de personnalité pouvant devenir pathologique. Si on réfléchit par exemple aux traits de personnalité anxieuse, on voit bien où peut se situer la notion de seuil. C'est par exemple l'anxiété par rapport à des événements plutôt a priori agréables, favorables, l'allumage immédiat du logiciel d'anticipation et d'amplification, c'est les deux distorsions cognitives les plus fréquentes chez les anxieux, avec un abaissement de la sensibilité, un abaissement du seuil. Ces logiciels, donc ces distorsions se déclenchent beaucoup trop tôt par rapport à ce que nécessiterait l'environnement. On a aussi chez ces personnalités une tendance à la surprotection, au suréquipement, pour se protéger du malheur. Mais si on y réfléchit bien, comme pour toutes les autres personnalités d'ailleurs, si tout ça existe, c'est que ça rend service aux individus qu'ils présentent d'une certaine façon, ou en tout cas ça rend service à l'espèce en augmentant les chances de survie de ceux qui présentent des traits anxieux, comme ça vous est représenté sur ce petit dessin. Au fond, ceux qui restaient dans la grotte à s'occuper du feu périssaient sans doute en moins grand nombre que ceux qui allaient s'occuper de ramener des mammouths ou des gros animaux à l'extérieur. Ceci dit, lorsque les anxieux font ce type de calcul, c'est vrai qu'on sait aussi qu'ils surévaluent les bénéfices à se montrer anxieux, à avoir des dangers partout, et qu'ils en sous-évaluent tout de même les inconvénients. Alors, ce petit passage par ces aspects de psychologie évolutionniste, c'est aussi parce que je voulais conclure, alors j'ai quelques diapos encore, mais je pense que j'ai 5 minutes, bon, j'accélère, par la notion de relation et d'attitude à avoir par rapport aux personnalités pathologiques. Voilà un exemple de ce qu'il faut éviter de faire, des interventions chimiques aveugles dans un but destructeur. Il faut toujours s'instruire et s'informer avant de se lancer dans l'action. Je vous rappelle très, très rapidement, mais vous aborderez ça cet après-midi sans doute, que lorsqu'on côtoie ou lorsqu'on travaille avec des personnalités difficiles ou pathologiques, c'est vrai que la cible est en général plutôt la modification comportementale dont on attend qu'elle diffuse ensuite à la vision du monde, plutôt que l'ambition de modifier d'emblée cette vision du monde ou d'emblée la personnalité. Alors, trois petites raisons pour garder notre calme face aux personnes qui présentent des troubles de personnalité. D'abord, toujours se rappeler, surtout pour nous les soignants, c'est plus compliqué pour les proches, qu'on ne choisit pas d'avoir une personnalité histrionique, une personnalité obsessionnelle, pas plus qu'on choisit d'avoir un TOC ou d'avoir un état dépressif. Tout ça, c'est une grande filiation occidentale, évidemment, dans cette notion que nul ne fait le mal de manière délibérée, mais on fait le mal parce qu'on souffre soi-même ou parce qu'on n'a pas bien compris ce que peut être le bien et pour nous et pour les autres. Donc la philosophie occidentale rappelle aussi, par le biais de Spinoza, qui dit bien d'autres choses évidemment, mais j'ai extrait ça parce que ça nous sert pédagogiquement, que les deux grands défauts qu'on peut avoir, les grandes erreurs qu'on peut commettre, c'est l'erreur du jugement de valeur et l'erreur de l'implication émotionnelle excessive ou inadaptée. Puis ça a été très largement aussi, mais là je suis très prudent avec François-Julien dans la salle, mais très largement avancé certainement par les philosophies orientales. Ça me semble quelque chose d'assez universel. Là vous avez une citation récente du Dalai Lama: si on frappe avec un bâton, tu n'en veux pas au bâton, tu en veux à la personne. Mais souviens-toi que la personne elle-même, elle est tenue par la haine comme le bâton est tenu par la personne. Donc réfléchis avant de t'énerver. Vois de quelle manière tu vas répondre, mais ne réponds pas aveuglément. D'où des réflexions sur la notion d'acceptation. Cette notion d'acceptation, là encore, elle a des filiations occidentales très très anciennes, chez les stoïciens notamment. Par exemple, cette citation de Marc Aurèle: « Ce concombre est amer, jette-le, il y a des ronces dans le chemin, évite-les, ça suffit. N'ajoute pas pourquoi ça existe, inutile de te lamenter, accepte que ça existe et agis. » Et ça, c'est une incitation à considérer que les personnes qui présentent des traits pathologiques, des traits problématiques, sont des phénomènes naturels. Nous sommes des phénomènes naturels, nous faisons partie de la nature, ils sont des phénomènes naturels, ils font partie de la nature. Nous n'avons pas à nous énerver contre le fait qu'existent des orages, des guêpes, des embouteillages, encore que les embouteillages, ce n'est pas tout à fait un phénomène naturel. Ils sont là et nous devons réfléchir à la manière de pouvoir vivre avec, aussi bien que possible. Et il en est un petit peu de même par rapport à ces problèmes de personnalité, alors que souvent notre petit réflexe intérieur, c'est de crier non. On n'est pas dans l'acceptation, c'est dire non, c'est pas possible, non, il ne faut pas que ça soit comme ça, non, je ne veux pas que ça existe ainsi. Là, on devrait commencer par dire oui, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Hein, l'acceptation, non pas à la place de l'action, mais comme préalable à l'action sereine. On ne va pas développer. Pour vous dire aussi qu'il y a des pseudo-acceptations, comme celle qui est développée dans ce dessin. Je suis prête à t'accepter à condition que tu changes totalement. C'est les acceptations de surface, dire oui, 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 mais les pseudo-empathies, hein, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui fait semblant de vous écouter, qui dit oui, 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 mais en fait, il est focalisé sur ce qu'il va répondre et non pas sur l'écoute. Et enfin, et c'est la fin là, vraiment, presque vraiment, un dernier point, c'est que si nous sommes si différents les uns des autres, on se ressemble beaucoup, mais il y a aussi pas mal de différences, et si certains d'entre nous sont si très très différents des autres, c'est sans doute un avantage. Vous savez qu'on parle par exemple de biodiversité pour dire que c'est un danger, ce sera un très grand danger le jour où il n'y aura plus sur Terre qu'une seule espèce génétique de maïs, qu'une seule espèce génétique de rose, le jour où nous serons tous clonés, en tout cas nos végétaux, nos animaux seront tous issus des mêmes modèles, et qu'il y a sans doute un intérêt considérable pour l'espèce à disposer comme ça d'un vivier extrêmement variable dont certains représentants finalement semblent ne servir à rien à l'instant présent, ou peut-être même gênent à l'instant présent, mais en réalité représentent une sorte de stock de ressources naturelles qui pourraient bien servir le jour venu si les circonstances se modifient. Par exemple, je reviens une dernière fois sur ces fameuses personnalités psychopathiques, un personnage impulsif, sans empathie, bagarreur, qui très dérangeant dans des sociétés pacifiées, normatives, comme la nôtre actuellement, mais probablement beaucoup plus intéressant dans des sociétés beaucoup plus instables et en quête de découvertes, comme l'était celle de l'Antiquité ou de la Renaissance. Voilà. Dernière bonne raison, c'est que quand même, on peut se dire que nul n'est parfait, même pas nous, et c'est vrai que souvent, il y a un écho en nous, dans les choses qui nous agacent chez les autres, si ça nous agace, c'est aussi que ça nous blesse, que ça nous offense. Et quand mes filles ont su que je venais parler des personnalités pathologiques, enfin, je leur ai parlé comme ça, de quoi tu vas parler, papa? J'ai parlé des casse-pieds. Mais n'oublie pas de leur montrer la photo du mug qu'on t'a offert il y a 2 ans, pour montrer que toi aussi, tu peux être un casse-pied parfois. Merci de votre attention.